Voyeur de l'indicible, insomniaque méthodique et voyageur cosmique, soyez les bienvenus à cette nouvelle émission des Nyctalopes. Dotés de la faculté de voir dans le noir, nous sommes vos sentinelles de nuit pour l'expérience insolite. Que se passe-t-il dans mon cœur de succube? Qu'est-ce que ce petit frisson dans mon cœur me fourge? Ou ces palpitations ne sont pas simplement dues au café que j'ai bu avant l'émission? Partage mon excitation, auditeur, alors qu'une voix familière s'apprête à couler dans ton oreille et te donner la même satisfaction sensorielle qu'un coton-tige curant méticuleusement celle-ci. Oh oui, car ce soir, nous recevons le grand Manitou des Nyctalopes, celui qui a reçu l'appel du divin lui dictant de fonder cette émission, nul autre que Métaphorman, mesdames et messieurs!
Je suis de retour! Je suis de retour. Bonsoir.
Bonsoir, Métaphorman.
Bonsoir. Bonsoir.
Tu nous viens de où, comme ça?
Je viens d'en bas. Je viens du café d'en bas.
Oui, mais disons, il y a une semaine.
Oh, il y a une semaine, j'étais dans un avion qui arrivait de Edmonton, qui arrivait avant ça de Yellowknife. Et avant ça, j'étais sur la route d'une petite communauté qui s'appelle Hay River, au territoire du Nord-Ouest.
Tu t'ennuyais vraiment beaucoup de nous.
Beaucoup.
Pour faire tout ce long voyage.
Seulement pour vous. Aucune autre raison.
Super. Et de quoi nous parles-tu ce soir?
Aujourd'hui, ce soir, en fait, je devrais dire aujourd'hui, ce matin.
Là. Maintenant.
Vous avez bien dit.
Ici,
là.
Maintenant.
Oui. Je vais vous parler de quoi tu veux que je te parle, en fait?
Tu me parles de toi.
Oh! ça va bien. Hein?
Non, mais plus tard, ta chronique, ton sujet.
Écoute, je vais vous raconter, depuis quelques années maintenant, un résident des territoires du Nord-Ouest, je vais vous raconter l'histoire incroyable du Mad Trapper de la rivière Rat. C'est une histoire qui s'est passée pour vrai dans les années 1930. C'est une histoire incroyable. Puis on se demande pourquoi ils n'ont pas encore fait de film avec ça. D'ailleurs, ça pourrait être un projet pour certaines personnes qui gravitent dans le monde du théâtre.
Mm-hmm. Écoute, je salive déjà.
Voilà.
C'est vrai. Accessoirement, il y a aussi ma sœur Succube Rationnelle qui est là. Salut.
Bonsoir. J'ai amené ma grippe avec moi.
Oh non.
Parce que c'est le thème de la soirée, je vais vous parler de la grippe.
Tu fais pas les choses à moitié, toi.
Non, c'est tout ou rien.
Parfait. Et moi-même...
Troqueur rationnel.
Et moi-même, succube spirituel au micro, je vous parle tout de suite une petite chronique musicale. Alors, j'y vais d'emblée, dans le fond, en vous faisant écouter une petite chanson. Et c'est comme un quiz.
Qu'est-ce qu'on peut gagner?
Mon respect.
Oh,
et,
wow.
Écoute, Métaphormande, je sais que t'es un grand mélomane. Donc, c'est surtout à toi que je m'adresse aussi parce que ma sœur sait de quoi je vais parler ce soir.
Ah.
J'aimerais que t'écoutes la chanson et que tu me dises de qui il s'agit ou du moins de à quel artiste ça te fait
Louis
penser.
Louis Bacalov, à date.
Non. On l'écoute un peu. That made you pay the cost that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss. Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek? That made you Tom the Curious, that makes you James the Weak. And you claim you got something going, something you call unique. But I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Alors, Métaphorman, à l'écoute, ton visage mimait l'approbation, je dirais.
Oui, j'aime bien.
Ça sonne bien, hein?
Oui, ça sonne très, très bien. Je trouve que ça fait très Bob Dylan-esque.
Yay! C'est ça que je voulais te dire!
Ouais,
t'es vraiment hot. Mais...
Très Bob Dylan-esque. des années 70 folk.
Exact.
Puis, la base dans mon oreille gauche... comment je pourrais dire? Elle m'a...
Elle sentait sucrée.
Ouais. Ouais, avec le petit comment ça s'appelle, le petit marimbé, je sais pas trop quoi, là, l'espèce de petit xylophone en bambou là.
Ouais, on ça. Aime ça, hein, dès la première écoute, c'est accrochant.
Ça s'écoute bien.
Oui. Eh bien, il s'agit du morceau Crucify Your Mind, écrit par Sixto Rodriguez au début des années 70, comme tu disais, du folk. Mais le nom, ça te dit rien non plus, j'imagine.
Sexe, oui, mais le reste après, j'ai.
Sixto,
oh, Sixto. Oh, Six, vois-tu, j'ai barré.
Comme Six.
Ah. Sixto Rodriguez.
Ouais. Enfin, c'est Jesus Sixto Rodriguez.
Ouais, ouais, je pense que c'est comme son nickname. Quelque chose comme ça.
Ben, il y a un méchant nickname.
Ouais.
Moi, c'est Dieu.
Écoute, c'est. Écoute, c'est un illustre inconnu en Amérique. Jusqu'à il y a tout
non,
récemment.
Du nord, j'imagine, du Sud doit être connu comme Barabas dans
même pas, non plus, non plus. Même en Europe, pas connu. Russie, pas connu. Aujourd'hui, il y a plus de chances d'être connu, comme ouais. C'est pour ça que je vous en parle. Mais sinon, depuis les années 70 jusqu'à les années 2000, genre. Même, en fait, jusqu'à tout récemment, il était vraiment pas connu.
Jusqu'à temps que ce cube spirituel...
Oui, oui, le déco, mais en fait, mon papa, je dois dire. Je dois lui donner le crédit, là, c'est lui qui nous en a parlé.
Ce cube paternel.
L'incube paternel. Oh.
C'est comme un cube rationnel, je pense, probablement.
Ouais, incube rationnel,
même
oui.
Pas un cube. Faudrait que ce soit comme rationnel.
Mathématicien rationnel.
Voilà.
En tout cas, ben, c'est ça, c'est lui qui nous en a parlé à notre brunch de Pâques et ça a vraiment piqué ma curiosité parce que c'est un documentaire qu'il a regardé puis là, je vous en parle aujourd'hui. Je suis vraiment tombée en amour avec l'artiste. En fait, c'est ça, c'est un illustre inconnu partout dans le monde, sauf en Afrique du Sud où, et là, accrochez-vous bien, il est plus populaire qu'Elvis.
Quand même?
Oui.
Alors, Elvis Costello ou Elvis Stoico?
Le Elvis, oh, le King, le King des Kings. Et écoute, c'est grâce à un documentaire qui s'appelle Searching for Sugar Man que je vous en parle aujourd'hui. Donc, c'est un excellent film sur une histoire assez incroyable dont je vais vous résumer un peu
les grandes lignes
ce soir. Et je vais essayer aussi de vous faire écouter la musique pour que vous tombiez en amour, vous aussi, avec l'artiste. Donc, Sixto...
J'ai déjà perdu l'équilibre.
Écoute, mon but, c'est de te faire tomber dans le bas de ta chaise d'ici à la fin de ma chronique.
Hey boy.
On veut t'entendre.
C'est pour ça que l'autre est debout.
Moi, je prends pas de chance. Elle a essayé ça une fois, là, puis
ça a marché.
Ça a mal viré.
Puis ça, là, fait ses chroniques debout.
Ouais.
Écoute, Sixto Rodriguez, il est né à Détroit, dans le Michigan. Il s'appelle Sixto parce qu'il est le sixième enfant de sa famille, tout simplement. Et... il vient d'une famille pauvre, la classe ouvrière. Il est un métis mexicain-américain, mais dans le fond, il n'y a pas d'accent. Là, il est vraiment américain. Donc, c'est ça. Son père jouait un peu de blues. Puis lui, bon, à un moment donné, les années 70-60, il est influencé par le mouvement hippie. Et il enregistre son premier album « Cold Fact » en 1969. Et ensuite, « Coming from Reality » en 72. Puis, les deux albums, ça a été des flops monumentaux, commerciaux.
OK. Puis mais acclamé par la critique.
Mais, ben, acclamé, peut-être pas acclamé, là, je pense que c'est comme passé quand même un peu sous silence, mais il y avait eu des bonnes critiques. Et donc, sa carrière va se terminer comme ça après deux albums qu'il a fait sous le label Sussex. Encore du sexe, t'aimes ça, métaphorement.
De plus en plus. J'aime cet artiste.
Et puis, ben, c'est ça, comme tu l'as dit, il est souvent comparé à Bob Dylan.
Ben, mais ça fait très
Bob Dylan. Mais dans le documentaire, bon, il y en a certains qui disaient qu'en fait, il est incomparable. C'est même plus que Bob Dylan.
Aïe, aïe.
Donc, il n'a pas du tout vendu aux États-Unis, ni ailleurs. Mais puis pourquoi? Ben, probablement à cause de son nom espagnol, tout simplement. Il n'y a personne qui voulait entendre un latino chanteur.
Du folk des années 70.
Par un latino,
ça
mais même pas. Un latino de cours, je pense qu'à cette époque-là, le monde il avait peut-être un peu des préjugés, puis ça ne s'intéressait pas, tu sais.
Il aurait dû faire comme France d'Amour pour changer de nom.
C'était quoi son.
France Rochon.
Ah oui.
Ça fait moins rocker.
Rochon.
Non, mais j'ai rien
nommé. Hey, moi aussi, je changerais de nom. C'est
on s'excuse pour tous les Rochons à l'écoute quand
ouais,
même.
Oui, on s'excuse.
C'est un vrai nom, là.
Il vient de changer
c'est
de poste.
Oh, je m'excuse.
Il vient de perdre la moitié de nos auditeurs.
On s'excuse, sincèrement.
Puis là, ben c'est ça, il y a Cold Fact, son premier album, qui sort en Afrique du Sud en 74, donc un peu après sa sortie américaine.
Qui est américaine, c'était en 72?
Quelle année j'ai dit? Non, 72, c'était le deuxième. En 69.
OK.
Donc, 5 ans plus tard, ça sort en Afrique du Sud. Et là, l'album devient culte. Mais en fait, les deux albums vont devenir cultes. Comme on sait, ce pays-là, il est alors sous le joug de l'apartheid. Mm-hmm. Et puis, bon, la jeunesse du pays, surtout les Blancs, en fait, ils vont faire de ces paroles qui sont engagées, même provocatrices, ils vont en faire leur hymne révolutionnaire, carrément. Et sa musique est pourtant censurée, ça passe pas à la radio, mais les ventes vont être fulgurantes. Cold Fact va même devenir un disque d'or, sans même que Rodriguez ne l'apprenne.
Il va devenir un disque d'or en Afrique, sans le support des radios officielles, puis sans que l'autre le sache à l'autre bout.
Exact.
Aïe aïe.
Ça commence à être intéressant.
Non, mais ça torche comme histoire. Là.
Je titube sur ma chaise. Là. Oh!
Tu titubes et je succube. Alors, puis c'est ça. Donc, eux, tout ce qu'ils ont, dans le fond, c'est deux albums. Aucune information sur l'origine du gars. Ils ont juste comme une photo du gars. Il y a un look latino, pas les lunettes fumées, les cheveux
gominés, chemise ouverte sur poitrail velu.
Non. Ah. Mais il a les cheveux longs. Il a l'air d'un artiste là, tu sais.
Oh, il a l'air d'un artiste. Dans une émission subséquente, j'aimerais que tu définisses le terme artiste, s'il te plaît, parce que là, je suis embrouillé au plus haut point.
Il a l'air d'un beatnik un peu, peut-être. Là. Je sais pas trop. Moi, un beatnik, je dirais. C'est peut-être comme... comment ça s'appelle? Yoko Ono, mais masculin, tu sais. Okay. Mexicain.
Ouais. OK.
Ah, c'est une bonne description.
Oui, ouais, c'est bon, ça. Ouais.
Avec un mélange de choses machetées, là.
Ah,
un
ouais,
peu,
ouais,
surtout
ouais,
en fin de vie. Enfin. Donc, c'est ça. Donc, ils savent rien là-bas. Puis comme c'est un pays vraiment comme un peu... fermés sur eux-mêmes à l'époque, puis il n'y a pas l'Internet non plus, ils n'en savent pas plus. Et comme il n'a pas fait d'autres albums, pour eux, en fait, à un moment donné, il y a des rumeurs qui est mort. Il y a comme plusieurs rumeurs qui se seraient suicidées. La pire d'entre elles veut qu'il se soit immolé lui-même sur scène.
Sympathique.
Donc, probablement que ça a même contribué au culte de la chose. Et là, je vous fais écouter Sugarman, d'où le titre du documentaire. C'est une chanson.
T'as pas nommé, je pense, le titre du documentaire.
Oui, je l'ai dit. Searching for Sugar Man.
D'accord.
Sugar Man, une chanson sur la drogue. Hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar Man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar Man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar Man, 'cause I'm weary of those double games I we'll
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For the blue coin, won't you bring back all those colors to my silver magic ships you carry? Jumpers, Coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal.
Alors voilà, c'était Sugarman de Sixto Rodriguez, qui a été un artiste culte en Afrique du Sud. Et il a même été une influence vraiment importante sur les artistes de la musique africans qui ont fait la révolution musicale. C'est un classique, là, autant que Elvis ou les Beatles ici. Et ça reste comme ça, le mystère continue de planer sur cet artiste. Personne, en tout cas tout le monde pense qu'il est mort. Et dans les années 70, il y a un journaliste d'Afrique du Sud qui s'est donné à un moment donné comme mission d'éluder ce mystère-là. Alors, il a fait plusieurs recherches. Il finit par concevoir un site Internet pour...
Pas dans les années 70.
Non, 90.
OK.
Site Internet,
on l'a testé.
Tu ne me suis pas, là. Suis-moi.
Oui, mais c'est parce que t'as commencé par dire 70, donc je voulais...
Non, j'ai dit années 90.
Non, je m'excuse, t'as dit 70, mais c'est pas grave.
Ah, bon,
c'est pas grave.
Pardon,
chicane.
Pardon.
Donc... Chicane de famille.
Quatre fêtes.
Wow! Donc, c'est ça, grâce au site Internet, il finit par recevoir un courriel d'une de ses filles. Et là, il tombe en bas de sa chaise. Pas toi, métaphorement, pas encore. Ouais, il tombe en bas de sa chaise en apprenant qu'il est toujours vivant et bien portant.
Mais qui tombe en bas de sa chaise? Sixto?
Le journaliste.
Le journaliste.
Le journaliste, quand il parle à la fille.
Non, lui, il sait qu'il est vivant.
Non, mais tu sais pas, avec toute la drogue qu'il a pris, on sait pas, peut-être qu'il sait plus.
C'est vrai. Ouais. Mais bon, enfin, ils finissent... Fait que là, il le trouve. En fait, le journaliste raconte...
Ça va,
elle va racler la gorge.
Ouais. Donc, dans le documentaire, le journaliste raconte qu'à 1h du matin, il reçoit le téléphone de Sixto et il a reconnu sa voix tout de suite parce qu'il a tellement écouté sa musique, tu sais, puis il revenait pas. Puis là, c'était vraiment
lui. Il reçoit un appel de Sixto qui lui dit « Bouge pas, je t'envoie un texto. »
Un texto!
Poutoumtch.
Donc, Sixto, depuis ses deux flops d'albums, en tout cas, qui pensaient que c'était des flops, il a travaillé dans la construction, il a étudié en philosophie.
Ah oui, donc.
Il s'est impliqué en politique, là, localement. Il a travaillé dur, vraiment. Puis, tu sais, il a fait une vie modeste. Et, pardon. Et là, on le voit dans le documentaire, il a encore le même look, cheveux longs, les verres fumés, il a juste comme la peau un peu plus maganée, c'est vraiment drôle. Et
on s'excuse auprès des vieillards à l'écoute. S'il y a un vieillard qui s'appelle Rochon, c'est...
Donc lui, il s'est fait apprendre qu'il était une vedette en Afrique du Sud. Que
après
son
toutes
album
ses est... années, comme oui. Après 20 ans, il avait zéro bin bar.
Non. C'est horrible. Puis il a pas reçu une scène aussi. Là, c'était ça la question qui est soulevée ben oui. Dans le documentaire. On voit que
Sixto
il a fait une
son
certaine
argent?
Ben non, pas vraiment. C'est plus les journalistes qui cherchent à savoir.
Okay.
Donc en Afrique du Sud, il y avait trois labels qui avaient indiqué et réindiqué ses chansons. Et il a demandé aux trois, et les trois disaient ben on envoyait les royalties là, on envoyait ça à Sussex, le label originel qui est le propriétaire de Sussex, c'était comme l'agent là. Et là on voit une interview de l'agent et en tout cas c'est clair que c'est lui, c'est pas prouvé là, mais c'est clair c'est lui qui s'est mis l'argent dans les poches là. Il est tellement arrogant puis comme tu sais, ah non, là, tu viendras pas me gosser avec ça là, fait tellement longtemps, on s'en fout, c'est pas vraiment important l'argent, puis en tout cas, bref, il est vraiment...
Il s'en est mis plein les poches.
C'est clair. Mais bon, le documentaire le laisse pas sous-entendre, mais je voulais juste avoir cette interview-là. En tout cas, tu tires tes propres conclusions. Et donc, je vous fais écouter une autre tune encore. Écoute, c'est Cause qui a été qualifié par le producteur de l'album à l'époque. Ça, c'est du deuxième album. Le titre étant, excusez-moi, je me rappelle plus, Coming from Reality. Donc, il dit dans le documentaire, et c'est assez émouvant parce qu'il l'écoute puis il a quasiment les larmes aux yeux, il dit « C'est la chanson la plus triste que j'ai jamais entendue de ma vie. »
Puis qui dit ça?
Celui qui a indiqué l'album à l'époque.
OK.
Parce que ceux qui l'ont indiqué, là, ils disent tout, « Ben oui, c'est un génie, mais ça n'a pas marché, c'est plate.
»
Cause.
I lost my job 2 weeks before Christmas. And I talked to Jesus at the sewer. And the Pope said it was none of his goddamn business. While the rain drank champagne, my Estonian archangel came and got me wasted. 'Cause the sweetest kiss I ever got is the one I've never tasted. Oh, but they'll take their bonus pay to Molly McDonald. Neon lady, beauty's that which obeys, is bought or borrowed. Cause my heart's become a crooked hotel, full of rumors. But it's I who pays the rent.
C'était un extrait de Cause, tiré de l'album Coming from Reality de Sixto. Sixto, t'aimes ça quand je dis ça?
Sixto.
Sixto Rodriguez.
Surtout quand tu me regardes du côté de même.
Et donc, c'est plate parce que dans le fond, je vous raconte le documentaire, mais regardez-le quand même, c'est intéressant. Je vous dis juste les grandes lignes, puis c'est un documentaire d'une heure et demie.
Peux-tu me rappeler le titre?
Searching for Sugarman. Quand le journaliste l'a enfin retrouvé, là, c'était comme, OK, là, tu comprends pas, il faut que tu viennes en Afrique du Sud faire des shows, puis tout. Alors, il s'est rendu. Quand il est sorti de l'avion, lui puis ses filles, ils comprenaient pas. Il y avait comme plein de journalistes, des limousines, plein de monde. Ils pensaient qu'il y avait quelqu'un de vraiment important qui s'en venait jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que c'était lui qui était attendu. Et
surprise.
Hello. Il était encore capable, maudit. C'était parfait, là. Il savait toutes ses tunes. Il avait la touch. Et puis, très humble tout le temps.
Il y avait des musiciens avec lui.
Oui.
Mais certainement qu'en Afrique du Sud, ils ont réussi à trouver des musiciens qui pouvaient suivre ce que.
Exactement. C'est que lui, dans le fond, il est arrivé juste avec sa guitare. Puis, le groupe qui devait faire sa première partie, qui capotait d'ailleurs de faire sa première partie, finalement, ils se sont retrouvés à jouer ses tunes aussi. Parce que lui, il est juste arrivé avec sa guitare. Mm-hmm. Il est tout simple, là. Il arrive comme ça. Puis, il comprend pas ce qui se passe. Puis. On voit des images dans le documentaire, des spectacles. Imaginez les gens dans la salle. Je veux dire, c'est comme si on nous apprenait qu'Elvis est pas mort, là, puis qu'il s'en vient faire un show à Montréal. C'est fou, pareil.
Mm-hmm.
Donc, le premier spectacle, il y a eu des minutes et des minutes et des minutes d'ovation et de cris avant même qu'il puisse dire une parole. Il a joué 6 concerts à guichet fermé. Ça, c'était en 98. Il dit dans le documentaire, l'Afrique du Sud m'a fait me sentir comme un prince.
C'est vrai de ça?
Ben oui. Excusez-moi, j'ai de la misère à me relayer. Oui, OK. Donc ça, je l'ai déjà dit. Donc depuis en 98, il est retourné 4 fois en Afrique du Sud pour faire des concerts. Puis on dit qu'il a donné la majorité de l'argent gagné avec ça à sa famille et ses amis. Il vit encore dans la même maison dans laquelle il a vécu dans laquelle il vit depuis 40 ans, une maison très modeste. Puis dans le fond, on laisse sur le fait que ouais, il y en a qui se sont mis de l'argent dans leur poche, puis mais
il n'a pas jamais tenté genre de recours pour essayer d'aller ramasser ses sous.
Le documentaire le dit pas. Moi, je pense qu'il est comme trop simple, il est juste comme il a toujours été heureux dans la vie, puis il a travaillé fort, mais comme c'est toujours contenté de ce qu'il y avait, puis
en tout cas, Sixto comme président.
Mais il est vraiment inspirant, pour vrai. Et c'est déjà la pause, alors on se laisse avec une dernière chanson. Il s'agit de Einar City Blues, tirée de l'album Cold Fact.
Going down a dirty inner city side road, I plotted. Madness passed me by, she smiled high, I nodded. Looked up at the sky, began to cry, she shot it. Met a girl from Dearborn early 6 o'clock this morning, Colfax. Asked about a bag, suburbia such a drag, won't go back. Cause Papa don't allow no new ideas here. And now he sees the news, but the picture's not too clear. Mama, Papa, stop, treasure what you got. Soon you may be caught without it. The curfew set for rain, will it ever all be straight? I doubt it. Seven jealous fools playing by her rules, can't believe her. He feels so in between, can't break the scene, it would grieve her. And that's the reason why he must cry. He'll never leave. There's an Asian influenza infecting us all by the score, and it's turning into pneumonia. We must go out once more. There's a full moon howling at the night, and its bark is much worse than its bite. So we must go out and dance around. Yes, we must go out tonight. So the doctors on the evening train, with their flasks and their caskets and vials. Mastocytosis was the diagnosis. So we all cashed our checks and went wild. There's a full moon howling at the night, and its bark is much worse than its bite. So we must go out and dance around. Yes, we must go out tonight. La vie, ha. We'll be right back.
its bite. So we must go. Yes, we must go. Yes, we must go out tonight.
La grippe, ha ha. Alors, c'était Squirrel Nut Zipper qui introduit mon sujet avec une chanson qui s'appelle La grippe.
Ah, et c'est vous... ça que ça veut dire?
Ouais.
Oh, wow. Mon espagnol n'est bon, pas très bon.
Et vous, vous êtes.
Moi?
Oui, vous êtes.
Moi, je suis grippée?
Non,
c'est pas ça. C'est
vous êtes cube rationnel.
Excusez-moi. Vous êtes toujours à l'antenne de Radio Centre-Ville et vous écoutez les Nyctalopes.
Bravo.
Et c'est cube rationnel qui parle.
Wow, je tiens à dire que pendant que j'étais à la barre de l'émission, on n'a jamais fait ça.
Non?
Jamais.
Jamais parlé au micro?
Oups.
Il y a beaucoup de choses qu'on fait
depuis
ton départ.
Oui, on a quand même
s'est perfectionné
d'upgrader
d'ailleurs,
les choses.
D'ailleurs, je dois dire, excuse-moi, petite parenthèse, là, oui. Mais dans mes pérégrinations au territoire du Nord-Ouest, c'est-tu un mot que je vois bien, que j'ai bien prononcé? Ça,
je crois que tu peux l'utiliser dans ce sens,
parfait.
Vas-y.
Oui, car on sait que tantôt, j'ai dit quoi? Éluder au lieu d'élucider.
Oui.
Toutes mes excuses.
Bon, on avait échappé la syllabe, était à terre, on la voyait pas. Mais dans mes pérégrinations de deuxième fois au territoire du Nord-Ouest, à Yellowknife, j'écoutais la radio francophone et j'ai eu le bonheur d'entendre les Nyctalopes. À Yellowknife!
Bien sûr!
Et je dois dire que vous êtes très, très bon. Puis je dis pas ça parce que je suis têteux. Oui, je suis têteux, mais je dis pas parce que je suis têteux, mais vous êtes très, très bon.
Ah, ben merci.
Là, les gens de Yellowknife qui nous écoutent vont te reconnaître parce qu'ils écoutent aussi ton émission.
Puis ce qui est vraiment drôle, c'est que je joue mon émission que j'enregistre au territoire du Nord-Ouest. Je joue juste avant vous autres. Fait qu'ils vont m'entendre, puis après ça, ils vont m'entendre encore.
C'est quoi le nom de ton émission?
Puisque
que
tu m'appelles
Poissonto.
Ouais. Sexto Poissonto.
Yes.
Bon, je vous parle de la grippe.
Oui.
OK. Bon, j'ai décidé de parler de la grippe parce que j'ai vraiment la grippe. Puis là, bon, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a assassiné, mais non, t'as un rhume. Puis souvent, les gens, ils disent, oh, j'ai une grippe. Puis moi, j'ai toujours considéré que si tu faisais de la fièvre, c'était une grippe. Sinon, c'était un rhume.
Ça prend plus que... OK, je m'excuse.
Continue. Mais c'est ça, là, j'ai eu comme... il semble-t-il que peut-être que c'est pas une grippe que j'ai, malgré que j'ai eu de la fièvre.
Moi, je pense que c'est un mythe, la grippe. Je pense pas avoir déjà eu ça.
La grippe, moi, je l'ai déjà eu une fois dans ma vie. J'avais 15 ans. Fièvre et courbature extrême, les muscles, comme je me sentais plus, là.
Mais j'avais aussi petites courbatures, mais bon... Bon, la personne me dit, si t'as pas été couché 3 jours de temps, pas capable de rien faire en position fœtale, ouais, c'était pas une grippe. Mais bon, moi, je pense que j'ai une petite grippe. Fait que laissez-moi avec mes illusions, puis laissez-moi faire ma chronique. Bon.
OK, vas-tu tout le temps de même, là? Elle va bouder, elle va piquer des crises, calvasse.
Bon, hey, la première affaire que je voulais vous dire, c'est que, bon, la grippe, il n'y a pas juste les humains qui peuvent avoir la grippe, il y a les oiseaux, les porcs.
Aviaires.
Et.
Porcines.
Et quel animal peut avoir la grippe aussi, comme nous?
Le chien? Le
non.
Singe?
Non, les phoques.
Ah, fuck.
Je trouve ça super cool. Les
pour
phoques, comme dans notre gang.
Oui. Les phoques, ouais, mais ils vivent dans l'océan Arctique.
Attends, mais c'est les seuls animaux qui peuvent l'avoir.
Non, probablement qu'il y en a d'autres. Là. Il y a d'autres mammifères qui peuvent avoir la grippe.
Les phoques, ils vivent dans l'océan Arctique. Ça, c'est super, ça.
Ah non, je
sais
pas comment
ils font. Ils sont dans l'eau frette, comme dans l'eau frette.
Oui, oui. Imagine ça avec la fièvre, puis bon, il n'y a peut-être pas tous les symptômes. Mais néanmoins, bon... La grippe serait apparue chez les oiseaux il y a environ 6000 ans. Et puis, la grippe humaine serait apparue en moins 2500, donc il y a 4500 ans en Chine, parce qu'il y avait des oiseaux qui avaient été domestiqués, notamment les canards. Les canards, c'est comme, si tu veux pas avoir la grippe ou la grippe aviaire, là, canard, là, oublie ça, t'élèves pas des canards. Les canards, c'est un nez capou, un nez à grippe, nez capus. Fuck les canards, okay? OK? Bon.
Fuck les canards.
C'est ça. Et puis, en fait, c'est vraiment difficile d'avoir des données historiques, tu sais, pour savoir, bon, les virus, c'est vraiment récent que les gens puissent les identifier. Donc, avec les données de, bon, il y a tant de personnes qui sont mortes ou il y a tant de personnes qui ont été malades, ben là, ben les historiens font comme, ah, ben ça devait être une épidémie de grippe. Fait que, mais la première vraiment épidémie de grippe qui est vraiment, tu sais, les gens sont convaincus, ah oui, c'était vraiment ça, 1580. Puis là, c'est une pandémie qui avait eu lieu en Asie puis qui s'était étendue en Europe puis en Afrique.
Mais il y a des gens qui mouraient?
Il y a des gens qui mouraient, oui, de la grippe.
Tu veux dire que aujourd'hui, si on n'avait pas de soins, tout le monde qui a pogné la grippe meurt?
Non, pas tout le monde. J'avais en parlé un peu plus
oui,
tard.
Oui, voilà.
Mais non, c'est pas tout le monde là, qui va mourir.
Mais on
meurt
de la grippe encore aujourd'hui.
Oui, encore aujourd'hui. Mais dans ça là, c'était plus. Mm-hmm. Puis bon, cette grosse grippe-là là, de 1580, mais il y a 8000 personnes à Rome qui sont mortes de cette épidémie-là.
Ça, c'est presque trois fois la ville où j'habite maintenant.
C'est ça, ça fait du monde à la messe, hein?
Ça fait
du monde à la messe pour y aller.
Ça fait beaucoup de place à la messe.
C'est ça.
Il y a de la place en rangée. Il y a de la place en rangée dans la
ville. Les balles en avant, là, sont serrées. Fait que, avant 1931, le problème, c'est que, ben, premièrement, le monde pensait que c'était. Ils ne savaient pas le virus. C'est récent là, que le monde se soit rendu compte. Oh, il y a une petite affaire qui donne une maladie, puis que c'est un virus. Le monde pensait que c'était des bactéries. Fait que, traiter, dans le fond, la grippe comme si c'était une maladie bactérienne, tu peux pas faire
question
ça.
Pour toi. Dans tes recherches, est-ce que. Parce que moi, j'ai une théorie qui dit que. Est-ce que vous avez beaucoup de gens religieux à l'écoute? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous avez les sondages BBM?
Je sais pas, mais la semaine passée, j'ai amplement parlé de Jésus.
OK.
J'ai puis déclaré mon amour à Jésus.
Ah,
non,
oui?
Il ne s'est rien passé. Ah ouais, non, j'ai profané Jésus, mais tu sais, dans le bon sens, je l'aime. Je dis, okay. J'aimerais ça. J'ai dit que je bandais sur Jésus.
OK.
En fait
avant sur
l'acteur,
Jésus Powell. Okay.
Jésus
c'est
Powell.
Pas pareil,
Jésus Nazareth. Okay. Robert Powell.
Okay. L'acteur.
Ouais, mais juste dans son rôle de Jésus.
Moi, j'ai reçu vraiment une parenthèse de parenthèse.
Mais c'est quoi ta question?
Je vais juste faire ma parenthèse parce que j'ai reçu un pamphlet chez nous de un dépliant, pardon,
oui.
des témoins de Jéhovah.
T'as arraché les yeux.
Des témoins de Jéhovah. Jésus est cute en sacrifice chez les témoins de Jéhovah.
Ah ouais,
je pense que je l'ai gardé, mais t'as l'envoyé par la poste.
Oui!
Il est cute, c'est un beau Jésus. Il
faut savoir un petit Jésus.
Ah non, il est beau, là,
il
est musclé, comme. Wow. En tout cas, ouais. Puis là, j'ai perdu ma question.
Pour revenir, tu voulais me poser une question par rapport à bactéries virus.
Oui, parce que mon hypothèse, c'est que les choses inexpliquées sont expliquées par la religion. Tu sais, genre, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, la foudre? Mm-hmm. On sait pas c'est quoi. C'est Dieu. Alors, quand les gens crevaient comme ça en masse, est-ce qu'on s'était dit, c'est le diable, c'est l'œuvre du malin?
Ben, probablement, comme dans toutes les épidémies, un jour, ça a dû avoir lieu, là, que ça c'est. La religion était là-dedans.
T'as tenté
là.
D'expliquer ça à sa
oui,
bonne façon.
Probablement.
Vous
merci.
Voyez oui. Que ça fait quand vous faites l'amour avec vos cousines? Genre.
Peut-être.
Dieu est pas content.
Sûrement. Surtout dans les premières, peut-être pas la dernière épidémie là, de grippe.
Qui baise avec sa cousine? Là? J'ai-tu manqué quelque chose? Là?
Alors,
j'invente des affaires.
Finalement, à un moment donné, il y a un gars, en 1933, il a réussi à isoler le virus en faisant un prélèvement dans la gorge de son collègue. Il a dit, viens ici, il prélève dans... Puis là, ils ont pris un furet, parce que ça allait avec les furets, c'est la meilleure façon de reproduire le virus, en tout cas, dans ce temps-là, en 1933.
C'était avant qu'ils découvrent le cochon d'Inde?
Probablement. Avec le furet, bien pratique pour élever des virus de grippe. Il y a deux types de grippe. Il y a
mais
la
attends,
grippe...
Mais où est-ce qu'ils l'ont mis après le Q-tip sur le furet?
Probablement dans sa gorge aussi.
OK, c'est bon.
Mais l'histoire ne le dit pas. C'est juste, je trouvais ça cute que ce soit un furet, tu sais.
Ben
on a
non,
des
phoques.
Il y a des furets.
OK. Des ibélines, des chats
sauvages, des rats musqués. Bon. Il y a deux types de grippe. Il y a la grippe épidémique, donc la grippe commune qu'il y a à chaque année, qui n'est pas vraiment dangereuse. Bon, tu vas avoir la toux puis tous les symptômes. Mais habituellement, c'est pas vraiment mortel. Et puis, ce qui était vraiment intéressant que j'ai lu, il y a un article, une étude qui a été faite en 2006. Et puis là, ils se sont aperçus que aussitôt tu étais infecté, même quand c'est une vaccination, c'est-à-dire que tu n'as pas développé les symptômes de la grippe, mais le sujet qui a été vacciné ou infecté devient plus actif socialement.
Ah, ouais.
Il y a comme. Il y a une modification. Oui, il y a une modification du comportement. Il y a une modification du comportement qui augmente le nombre d'interactions sociales. Puis, ce qui donne à penser que le virus, dans le fond, il va agir de façon neurophysiologique sur la personne. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment fucké.
Ça fait peur.
Ça fait vraiment peur. Là. T'es comme contrôlé par le virus. Tu sais pas encore que t'as une grippe. Hein. Puis là, c'est comme t'as juste le goût d'aller frencher tout le monde parce que tu vas avoir une grippe, il faut t'adonner le plus vite possible.
C'est sûr que le virus de zombification fait sûrement la même affaire.
Probablement.
J'ai lu un article récemment, il y a un gars qui a développé une maladie mentale qui est très rare, mais sa maladie, un peu comme ça, prend contrôle de son cerveau, lui fait faire des trucs vraiment dangereux, genre traverser la rue sans regarder. Puis, mais je me rappelle plus pourquoi. Mais
il y a peut-être qu'il y a comme une grosse grippe.
Il y a peut-être une très grosse grippe.
Ça s'en vient.
Ça, voilà, ça se peut.
Puis bon, même la grippe épidémique, là, la grippe commune, ben il y a chaque année 250 000 à 500 000 décès. Puis essentiellement, ben, c'est des jeunes enfants puis des personnes des âgées, donc enfants. Ceux qui ont les systèmes immunitaires bas. Et puis... ça se compte par...
Épidémie.
Ça se compte par...
Okay. Fais-moi pas rire, dit-elle en tout ça.
Elle devrait plutôt dire fais-moi pas tousser.
Ouais, c'est ça, fais-moi pas tousser. Mais et puis le coût, dans le fond, de annuel là, de la grippe, là, c'est des plusieurs milliards de dollars juste aux États-Unis. Fait qu'imagine à travers le monde combien ça coûte. Ça veut dire du monde qui vont pas travailler, mais du ça, monde c'est... qui sont malades, qui utilisent les soins de santé.
Ça compte-tu aussi, genre la vaccination puis les annonces qu'on fait pour vacciner?
Probablement, puis c'est tout. Puis pas rien que ça, il y a tout le système de surveillance aussi de la grippe. Ouais. Je vais en reparler un peu plus tard.
Ah, okay.
Mais je comprends pas. Moi, je suis sûre que j'ai jamais pogné ça. Puis pourtant, j'ai une petite constitution. En fait, non, mais je prends un médicament qui baisse mon système immunitaire.
Mais je pense...
J'ai jamais pogné ça.
Oui, mais tous les corps ne réagissent pas également à la grippe. Tu vas avoir beaucoup de symptômes ou pas beaucoup. Puis c'est la même chose pour un rhume. Tu sais, tu vas pas avoir tout le temps la même réaction. Là,
touche du bois, là, à cause de ça, tu es en train de te jinxer. Touche du bois, vite.
Vite la console.
C'est beau.
Bon, deuxième type de grippe, c'est la grippe pandémique. Donc j'ai parlé de la grippe épidémique, petite grippe de momoune. Bon, la grippe pandémique,
désolé,
là, ça, là. Ça, c'est... Hein?
Désolé à toutes les momounes. C'est une vieille momoune qui s'appelle Rochon. Ça va mal. Ça va mal.
OK, une grippe de chochotte d'abord. Bon, les pandémies grippales sont vraiment meurtrières. Et puis, ça peut arriver, bon, c'est contrairement à la grippe commune qui arrive à chaque année. C'est sûr qu'à chaque année, il y a une vague de grippe. Grippe pandémique, ben c'est bon, une couple de fois par siècle, là, mettons à peu près à toutes les 30-35 ans.
Ah, ouais. Pis c'est pas la même chose à chaque fois. C'est pas le même.
Non,
virus.
C'est pour ça. Je vais l'expliquer après ça. Ouais, c'est pour ça que ça devient une pandémie, c'est parce que c'est pas le même virus d'une fois à l'autre. Ce qui arrive, bon, je vais partir du début.
Étape 1.
Étape 1.
Ouvrir le sachet.
OK. Faut vous imaginer un virus. Et là, je fais un symbole.
Imaginons Bruno Blanchette.
Imaginons.
Le virus.
OK. Imaginons. Imaginons, c'est un virus. C'est comme une boule. La boule du virus à l'intérieur. En fait, un virus, là, c'est pas vivant, là. C'est comme. C'est inerte, dans le fond.
Oh.
Ah ouais.
C'est.
Une bactérie, c'est vivant.
Oui.
Mais un virus n'est pas vivant.
Non, c'est okay. comme inerte.
Okay.
Mais c'est vivant, mais c'est comme bizarre, là. Tu sais, c'est...
Je le vois dans ta face,
oui.
C'est bizarre. Paquet de grimaces.
J'essaie de faire ça simple. Puis la boule de virus, dans le fond, c'est des protéines, ou à peu près juste des glycoprotéines, donc des sucres et des protéines.
Oh non, je commence
à tousser. Oh, ça y est, j'ai contaminé. Et puis là, à l'intérieur de la boule, il y a de... En fait, c'est pas de l'ADN, c'est de l'ARN. L'ARN, là, c'est comme de l'ADN de pauvre. Genre...
du Kraft Dinner.
Oui, mettons là, c'est
la
ça.
La vieille moumoune, Rochon, qui est pauvre, là. Elle est en train d'écrire sa lettre.
C'est la classe
matin,
ouvrière
là.
De ben l'ADN. Oui.
C'est ça,
oh,
exactement.
Bien dit.
Sixto
ça.
Rodriguez.
C'est comme...
Voilà, bingo.
Mettons là que...
C'est un virus avec des cheveux longs.
Mettons que t'es mal pris, là... Ben, tu prends de l'ARN puis tu essaies de répliquer ça pour faire un autre virus. Mettons, t'es mal pris, OK?
OK.
Mais on va faire ça simple. Mettons, c'est comme si c'était de l'ADN. Dans le fond, c'est le code génétique.
D'accord.
Du virus, c'est de l'ARN.
OK.
Mais l'extérieur du virus, c'est comme des spikes. Puis là, les spikes, il y a deux types de composés. Il y a de l'hémagglutinine. Et des neuraminidases qui sont des H et des N. Tu sais, comme dans grippe H1N1, mais ben le H, c'est hémagglutinine, et le N, c'est des neuraminidases. Il y a 16 sortes de H différents et 9 sortes de N. Donc, tu peux avoir des combinaisons différentes. Possible. Ça fait, mettons, tu fais 16 fois 9, 144 combinaisons possibles. Chez l'humain, c'est pas tous les types qui sont disponibles, mettons. Tu vas avoir surtout des H1, H2, H3, comme dans le H1N1. Ça, c'est un des types. Ce qui est... Ah, puis l'autre possibilité... Pas possibilité. L'autre type de classification du virus, c'est A, B, C. Puis les humains, ben, tu peux avoir du A puis du B. Puis habituellement, les A et B, c'est eux autres qui sont responsables des épidémies. Puis le type A, c'est lui qui est responsable des pandémies, quand ça fesse. Puis il y a certains types comme A puis C, ben là, ça peut être sur plusieurs espèces, mais habituellement, les humains, c'est des A ou des B. Comme la dernière pseudo-pandémie de grippe qu'il y a eu, c'était de la grippe A H1N1. Mm-hmm. Bon. Puis d'où vient la variabilité dans les différents virus? Ben, premièrement, c'est soit qu'il y a une réorganisation à l'intérieur du virus. Donc, l'ARN, quand il se réplique, en plus, le virus, il est poche. Il est pas capable de faire copier-coller comme du monde. Il se trompe. Puis là, ben, il fait que le virus d'après est un petit peu différent. Mais comme l'extérieur, les spikes, les H puis les N, eux autres, ils ont pas vraiment changé. Ben, quand il arrive dans un nouveau corps, dans un corps humain, ben, les anticorps sont habituellement déjà là, fait qu'il reconnaît. Fait que ça n'a pas un gros impact. Souvent, les épidémies, ben, c'est ça qui est arrivé, tu sais. Le virus, il est différent. Assez peut-être pour être un peu malade, mais pas trop. Puis quand il y a des pandémies, habituellement, c'est parce qu'il y a eu un ressortiment des spikes, dans le fond. Puis là, ben, ça peut être à l'intérieur de l'oiseau. L'oiseau, lui, il a du H1N1. Puis là, il est en contact avec un humain. Deux virus, mettons un H2N1. Là, je dis des lettres et des chiffres. Là. Puis là, tu mélanges ça, puis pouf, ça fait un nouveau virus. Mais là, c'est les spikes. Puis les spikes à l'extérieur, c'est avec ça que le corps humain, il reconnaît. Fait que les anticorps, tout à coup, il n'y a plus la même combinaison de spikes. Fait que là, il capote. Et c'est là que tu te retrouves avec une pandémie de grippe.
Là, je me demande, est-ce que tu meurs vraiment du virus ou tu meurs de la réaction de tes anticorps, de la réaction immunitaire?
C'est
la fièvre puis le qui te fait mourir?
Ouais. Ouais. Oui et non. En fait, par exemple, la grosse pandémie de grippe espagnole qu'il y a eu au début du siècle, en 1918 plutôt, le monde, il réagissait tellement fort qu'il y avait beaucoup de monde qu'au bout de 3 jours, c'est comme...
Tu meurs de faiblesse.
Tes organes sont même affectés parce que, il appelle ça, c'est un orage de cytokinine. Cytokinine, c'est des neurotransmetteurs entre les cellules qui habituellement disent à l'autre cellule à côté, « Hey, il y a un virus qui s'en vient, prépare-toi. » Puis là, ben...
un court-circuit.
Là, c'est tellement fort, hein? C'est tellement fort que ça fait des œdèmes sur les poumons, puis c'est vraiment tu t'auto-tues.
Tu t'auto-flagelles
ouais. À l'intérieur. Puis,
je peux te poser une question?
Oui, vas-y.
Tu ne pourras peut-être pas répondre, mais le virus là, de la grippe, là, les virus, ils viennent de où? Ils naissent où? Genre dans un étang, puis là, ils sautent sur un oiseau, parce qu'ils sautent sur l'humain? Ou...
Non, mais là, ils sont tous... OK.
Qui c'est qui a inventé ça?
Le virus originel, là, je sais pas, il est où. Il est parti de où. Mais comme je dis, ça a commencé à moins 6000. Il y a au moins 6000 ans.
Dans la poule. Ouf.
Oiseaux. Dans les oiseaux, comment, je sais pas. Ça, c'est... Je suis pas rendue là. Je me suis pas rendue là dans les questionnements de la vie.
Moi, c'est pour ça que j'ai pas d'études en médecine.
Ouais, mais pour finir, de répondre à ta question, qu'est-ce qui te tue?
Ouais.
La grosse grippe de la grippe espagnole, oui, c'était une réponse trop forte du système immunitaire, mais il y avait beaucoup, beaucoup de monde. C'est que là, bon, t'en meurs pas, t'es juste bien affaibli. Puis là, les bactéries se mettent dans tes poumons. Là, tu pognes une bronchite ou une pneumonie.
C'est ça, c'est ça.
Puis c'est ça qui te
tue. Ça affaiblit ton système
immunitaire. Il y avait beaucoup de monde que c'était de ça qui mourait. Puis comme t'étais en 1918, ben, t'as pas d'antibiotiques. Mm-hmm. Fait que ça va mal dans ta vie. Déjà en partant. Puis, ben, fait que le monde, il mourait d'une pneumonie, tu sais. S'il avait réussi à être réchappé de la grippe en tant que telle, ben, tu te rachevais quelques jours après.
C'est fou comment des fois on peut dire au sujet de quelque chose, hey, on n'est pas fait fort. Mais d'autres fois aussi, on peut se dire, hey, le corps humain, c'est bien fait. En tout cas, c'est un équilibre fragile.
Oui, tout à fait. J'aurais voulu parler en long et en large de la grippe espagnole, mais il faudrait quasiment que je fasse une deuxième chronique juste sur la grippe espagnole.
Mais faisons cela.
Est vraiment, non, mais vraiment cool, la grippe espagnole.
Elle est cool!
Non, mais dans mon top 2 de...
D'épidémie,
là.
Hey, ça en fait, de pandémie. Ça pour avoir un top d'épidémie.
Non, mais c'est parce que... Site, parce que moi... J'ai toujours comme eu un film comme pour la grande peste de 1348. Non, mais je trouve ça vraiment...
Est-ce qu'on le dit que présentement, il se touche en parlant de la grande peste ou...
Elle aime ça les infections, ma femme.
J'aime ça les infections.
Parce que...
Non, mais il y a quelque chose de vraiment moyenâgeux et glamour dans la grande peste. Et puis là, je lisais sur la...
Elle rêve de faire l'amour dans un bain de pu.
Je lisais sur la grippe espagnole, puis là, mon cœur balance, tu sais. Parce que la grippe espagnole, me dit, ça l'a torché, hein. C'est la plus grosse pandémie, probablement. Au début, il évaluait que c'était de 20 à 40 millions de morts.
C'est beaucoup.
En 8 mois. Ça torche.
C'est intense.
Mais ils ont réévalué. Dernièrement, ils réévaluaient, là, tu sais, parce que là, il y avait comme plus se regarder en Europe, en Amérique. Puis à un moment donné, ils ont fait comme moi, il y a le reste du monde aussi qui sont peut-être mourus de ça. Fait que là, ils ont réévalué. Puis en fait, ils arrivent plus entre 50 et 100 millions de personnes.
Toujours en 8 mois.
Ouais. Juste un autre chiffre très intéressant. À ce moment-là, sur la Terre, il y avait à peu près 2 milliards de personnes. Il y a 1 milliard de personnes qui ont été contaminées.
Oh shit! La moitié.
La moitié de la population
terre.
Ont eu la grippe espagnole.
Aïe, aïe.
Et il y en a peut-être 100 millions qui en sont morts.
Non, mais il devait y avoir un petit peu de monde qui capotait, qui s'enfermait chez eux. Puis,
Oui, en effet.
Surtout quand ils l'ont vu sur Internet.
Pourquoi la grippe espagnole? C'est quoi? Elle est arrivée que c'est castagnette? Puis...
J'ai voulu faire la même joke tantôt. Je voulais dire que la grippe espagnole, elle a pas des spanks, elle a des castagnettes. Clac, clac, clac.
Allez.
Allez.
Allez. Non, en fait, ce qui est arrivé, en fait, il y a comme deux théories, là. Ils disent, c'est soit, attends, excuse, son petit nom, c'est Alphonse quelque chose. Je veux dire Alphonse VII, là, mais je suis plus sûre que c'est VII. Alphonse VII d'Espagne, qui était en voyage diplomatique aux États-Unis et qui aurait rapporté la grippe. D'où la grippe espagnole, mais en fait, la nomenclature, moi, l'histoire que j'ai entendue et que j'ai lue le plus souvent, c'est ce qui arrive, c'est que c'était la Première Guerre mondiale, 14-18. Donc, l'Europe est en guerre, les États-Unis aussi, mais l'Europe est en guerre, la France, l'Allemagne sont en guerre, l'Espagne, ils sont neutres. Tout le monde a la grippe, à ce moment-là, pas espagnole, mais le seul pays qui en parle et qui publie dans les journaux qu'il y a une épidémie, c'est l'Espagne, parce qu'ils sont pas en guerre. D'accord. Puis la France et l'Allemagne... Ben, puis tu veux pas dire à ton ennemi, « Hey, en passant, il y a plus personne pour défendre le pays. » Fait que, comme les Espagnols, eux autres... publiait, ben c'est devenu la grippe espagnole.
Oh.
Ouais. Et là, est-ce que j'ai le temps encore de parler de ma grippe préférée?
Voulez-vous bien me dire ce que vous regardez depuis tantôt?
On regarde Jésus, là, qui est assis à notre droite. Je ne vois pas. Mais non, je pense que non. Mais
non.
On va-tu... Est-ce que, métaphorement, tu peux laisser une petite minute à succube rationnel sur ta chronique pour
moi finir? Ma chronique je l'ai faite en 10 minutes mais extrêmement condensée. Fait que je pense que ça va aller.
OK, alors on s'en va à la pause et on revient avec d'autres petits faits,
ouais, des faits
sur la grippe espagnole.
Oui.
Et on s'en va en musique avec Froggle Funk de Beat Market. Mm-hmm. vous êtes de retour au Nyctalope. Je vous rappelle qu'on est diffusé ici à Radio Centre-Ville dans la nuit de mercredi à jeudi. Et vous pouvez nous écouter aussi via les internets pendant la semaine. Et si vous aimez notre page Facebook, on publie à chaque fois un lien Dropbox où vous pouvez downloader l'émission. Et on est également diffusé à E-River dans les territoires du Nord-Ouest, CKHR.
Represent,
Métaphorman. Hein? On est vraiment heureux de t'avoir ce soir. En passant, je ne l'ai pas dit.
On te ferait un câlin si on n'avait pas la grippe.
C'est ça. Donc ça, c'est les jeudis 20h et à Yellowknife, Radio Taiga, les jeudis soirs 18h30 et dans la nuit de vendredi. Et là, on voulait terminer sur La grippe espagnole arriva.
Oui.
Avec Succube Rationnel.
En fait, les petits faits intéressants. Le problème avec tous ces gens qui meurent, ben ça a causé un autre problème, c'est qu'à un moment donné, quand t'as à peu près 500 personnes qui meurent dans la même semaine, ben il faut tes enterres. Qu'est-ce que tu fais?
Tu
demandes aux prisonniers d'aller creuser des tombes. Où les propriétaires, en fait, les cimetières, ben ils en ont profité aussi de façon mercantile, c'est qu'ils ont augmenté les prix, puis ils demandaient aux familles, ben tu me payes plus, puis va creuser ton trou toi-même.
Hey, mais voyons donc, ça a pas de bon sens.
Il y avait une wagon qui passait dans la rue, puis là ben t'identifiais ton mort, là, tu y mettais une petite étiquette, puis tu le mettais dans le wagon, puis
comme genre,
tu t'en débarrassais.
Chaque jeudi, les vidanges passent, là.
Ben, c'est ça, là. Wow. Tu t'en débarrasses le plus vite possible. J'ai même déjà entendu, mais ça, je l'ai pas lu nulle part, j'ai même déjà entendu qu'il y a des gens qui ont été... Ils se dépêchaient tellement à enterrer les morts. Il y a du monde qui n'était pas vraiment mort.
Ah!
Fait qu'ils ont enterré.
C'est ça, c'est les histoires de cloches, là. Tu sais que t'entends quelqu'un, il y a une cloche au-dessus de sa tombe avec un fil qui va jusque dans le cercueil et au cas où que la personne soit pas morte.
Non, c'est quelqu'un qui avait voulu, qui s'était fait enterrer. Je pense que c'est un roman, ça. Le gars voulait se faire enterrer, ouais. Le gars voulait se faire enterrer avec ce système-là, là, la petite corde avec la clochette.
Au cas où qu'il serait pas mort.
Ouais.
Mais je pensais que c'était une pratique, une coutume.
Je sais pas, j'ai jamais entendu ça, mais...
OK.
Mais néanmoins.
OK.
Et... qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui! Et puis là, il y avait un des seuls remèdes que les médecins prescrivaient, c'était du whisky. Non, mais ça tue, ça désinfecte.
Ouais. Ben d'ailleurs, la ponce de gin est reconnue comme un remède contre le rhume très efficace.
Oui, c'est ça.
Je pense que c'est plus pour la gorge.
C'était le whisky.
Pour le moral.
Et là, il y a des gens vraiment crapuleux. Sans scrupules et crapuleux. qui étaient rendus qui vendaient 52$ le gallon. J'imagine que c'est beaucoup pour 1918. Ouais, ouais.
Parce que maintenant, c'est pas beaucoup.
Non, c'est
52 pièces pour un gallon de whisky.
Pour un gallon, c'est comme wouhou! C'était les pharmaciens qui vendaient ça puisque c'était un médicament. Et aussi parce qu'ils avaient fermé les bars. Parce que bon, ils voulaient pas que les gens se réunissent et se contaminent entre eux. Donc, à un moment donné, les grandes villes, entre autres Philadelphie, ont dit OK, on ferme ça. Sauf que la ville, l'autre bord de la rivière, eux autres, ils avaient pas fermé leurs bars. Fait que le monde, ils traversaient. Puis le monde de l'autre ville est un peu en maudit parce que ça faisait un peu trop de monde, puis du monde qui allait se saouler là, en plus. Bref, ça entraînait quelques problèmes. Et, dernière chose intéressante, c'est qu'en 2004, ils ont réussi à synthétiser le virus de la grippe espagnole. Parce que naturellement, ils ne savaient pas à ce moment-là que c'était un virus. Ils avaient essayé d'en conserver, mais ça n'avait pas été vraiment efficace.
Ils ont fait ça?
C'est
fou, le début
hein?
d'un film d'horreur.
Je sais, c'est vraiment Lovecraftien, tu sais, où ils ont trouvé le virus. Ah. Ils sont allés déterrer des corps en Norvège, proche du Groenland.
Ah.
Mais il y a des corps qui avaient été enterrés dans le...
Qui étaient gelés.
Je m'en ai dit dans le permafrost. Pas le permafrost, le pergélisol. Dans le pergélisol.
Ben, c'est permafrost, mais en anglais.
Ben, c'est ça. Dans le pergélisol, donc. Et puis, ils ont déterré une couple de cadavres. Ils ont fait des prélèvements. Ils savaient pertinemment que ces gens-là étaient morts de la grippe espagnole. Et bref, ils ont été capables de reconstituer, ou à peu près. Et c'est là qu'ils ont pu découvrir l'origine du virus, qui était un virus d'origine aviaire, donc des oiseaux. Et c'était un H1N1.
Ah!
Type A, H1N1. Bref.
C'est ce qui complète ta chronique?
Oui, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet.
Alors, on passe le micro à Métaformat!
Yo!
On est content que tu sois là. On t'a là, tu dis.
Et maintenant, j'ai une attitude.
Yo!
Yes. Ben oui, je suis content d'être ici, c'est sûr. J'étais tout énervé tantôt, j'ai essayé de faire un dodo. Ça n'a pas marché.
On t'a gardé pour la fin?
Ben oui!
T'es comme le crémage.
Le crémage au gâteau. Hey, moi, je vais vous raconter une histoire qui est vraiment complètement capotée, puis ce qui est encore plus hot, c'est que vous avez parlé de plein d'affaires qui, sans le vouloir, font des liens avec mon histoire. Elle vient de parler d'éterre des cadavres dans le pergélisol.
Dans le pergélisol.
Ouais, ça a pas mal rapport à ça. Puis tantôt, tu parlais de mon ami Sexto. Mm-hmm. Sexto qui fait des textos.
Non, il envoie des sextos.
Il envoie des sextos, exactement. Sexto et ses sextos, on ne connaît pas trop son identité, c'est qui, c'est quoi. Puis tout d'un coup, bon, tiens, on veut trouver c'est qui. Moi, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire. Je voulais dire la légende, mais c'est pas une légende, c'est vrai. L'histoire du Mad Trapper de la rivière Rat, c'est une histoire qui se passe au territoire du Nord-Ouest. Avant de commencer, je fais peut-être une petite situation mise en situation géographique. J'habite au territoire du Nord-Ouest. J'ai souvent la question, quand je parle des territoires du Nord-Ouest, les gens confondent ça avec le Yukon. Bon, premièrement, voyez une carte du Canada.
C'est
là,
juste à côté, là.
C'est juste à côté. Colombie-Britannique, si vous allez au nord de la Colombie-Britannique, c'est le Yukon. Fait que c'est montagneux, c'est des rocheuses,
c'est tout petit. Territoire du Nord-Ouest, c'est grand.
C'est grand. Puis territoire du Nord-Ouest, c'est en haut de l'Alberta et de la Saskatchewan. Mm-hmm. Donc, c'est un peu à l'image de l'Alberta. C'est plat, mais complètement à l'ouest, il y a une chaîne de montagnes. Ça va être important pour le reste de l'histoire.
D'accord.
Alors, notre histoire commence le 9 juillet 1931.
Ça, c'était après la grippe espagnole. Mais avant qu'ils découvrent les virus. OK.
À quelle année déjà les virus?
1933.
Ah, OK, juste avant.
Ouais.
Tu vois? Mm-hmm. Donc, 9 juillet 1931, il y a un gars qui arrive en canot à Fort McPherson, dans le nord, complètement dans le nord des territoires du Nord-Ouest. C'est à peu près à une centaine de kilomètres de la frontière du Yukon.
Il arrive en canot, il vient de où?
Dans ce temps-là, le monde arrive en canot d'à peu près n'importe où.
Ça, c'est comme la chasse-galerie. Il avait fait un pacte avec le diable, puis...
Ça se peut. Checkez bien le reste de l'histoire. Ça se peut qu'il ait fait un pacte avec le diable. Il arrive en canot à Fort McPherson, puis il passe quelques jours dans la ville. Là, j'utilise des guillemets ici. Là. Tiens, on va utiliser les guillemets espagnols pour en honneur de la grippe.
Espagnol!
Olé! Olé! Avec des castagnettes. Clic, clic. Mais il passe quelques jours en ville. Il est propre. Il est rasé, chose qui est assez rare à Fort McPherson en 1931. Il parle pas beaucoup aux gens, il est super discret, puis il a du cash. Il a des grosses coupures sur lui, il achète du matériel, il paye ça cash avec des grosses coupures. Assez pour éveiller des soupçons. La GRC va aller le questionner, puis le gars répond de façon super évasive, puis vague. Le policier se dit, bon, il va être...
Bref, il élude la question.
Il élude la question. Bravo, hein.
Et la GRC ne peut élucider le mystère.
Absolument. Elle vient de vendre mon punch. Fait que c'est ça. C'est
OK.
Tout.
Merci, bonsoir tout le monde, et on se revoit la semaine prochaine. Non, OK,
je vais chanter pendant le... Ouais, non. Donc, la GRC le questionne, le gars est évasif, il donne des réponses super vagues. Le policier se dit, bon, il veut juste être laissé à lui-même. Il y a bien du monde qui vont là, dans ce temps-là. Ils veulent juste être un peu en dehors de la société, un peu en dehors de la civilisation, puis du gars-là, c'est ça qu'il veut.
Il est peut-être allé chercher de l'or, puis là, il s'en vient à dépenser.
Exactement. N'oubliez pas non plus que c'est pendant la Grande Dépression. Il y a bien du monde qui cherche, tu sais. Bon, ils n'ont pas de job, ils sont pauvres, il n'y a pas d'assurance sociale, fait qu'ils font ce qu'ils peuvent. Il y en a même qui se ramassent dans le Nord. Le gars, il prétend s'appeler Albert Johnson. Quand le policier va lui demander comment tu t'appelles, il dit « Je m'appelle Albert Johnson ».
OK, okay. On retient ça.
Là, vous avez bien... Ils ont pogné le kiou, hein?
Ben oui.
Il passe quelques jours en ville. Finalement, après quelques jours, il quitte Fort McPherson dans son canot. Il s'en va explorer le delta du Mackenzie. Le delta du Mackenzie, c'est vraiment au nord complètement, juste avant que le fleuve se jette dans l'océan Arctique. Finalement, il va se construire une cabane de 2,5 m par 3 mètres. C'est pas gros. Il se construit une cabane sur un promontoire qui surplombe la rivière Rat. Mad Trapper de la rivière Rat, on s'en vient. Puis là, après ça, il décide de passer une vie de badass aux frontières de la civilisation. Il chasse, il trappe pour la fourrure qu'il va vendre, mais chose bizarre, il n'y a pas de permis. Il y a beaucoup de gens là-bas qui vont trapper. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont trapper au territoire du Nord-Ouest, mais là-bas, ils ne font à peu près que ça, ou presque. Mais lui, il n'y a pas de permis. Ce qui est vraiment étrange à l'époque. Puis, il parle à personne.
OK, t'as pas le droit de trapper, sinon t'es un braconnier, si t'as pas de permis.
Ça te prend un permis.
Oui.
OK. Le gars, là, c'est quoi? C'est un Canadien anglophone?
Check Mesa.
OK.
Check bien ça, je m'en reviens. Tranquillement, je m'en reviens. Puis il s'en va, puis il parle plus à personne. Mais là, la cabane qu'il a construite, il a choisi son emplacement, c'est sur un promontoire, il voit tout autour, comme il sait ce qu'il fait.
C'est un bon spot.
C'est un bon spot. Décembre 1931, il y a une couple de mois qui ont passé, il y a un Autochtone du coin là-bas qui va se plaindre à la GRC. GRC. Merci.
On veut un G. On veut un R. On veut un C. GRC.
Merci, les filles. il se plaint qu'il y a quelqu'un qui fuck le chien avec ses trappes. Il y a quelqu'un qui se promène, puis avec un bâton, il déclenche ses pièges.
Okay.
Il les démange, puis il les accroche dans les arbres. Fait que le gars, il est pas content, puis il soupçonne Albert Johnson. Mais il n'y a pas de preuve. On ne sait pas si c'est lui, mais il soupçonne. On pense probablement que les Autochtones veulent que les Blancs sacquent le camp parce que là, c'est la Grande Dépression. Il y a beaucoup de Blancs qui sont soudainement arrivés puis ils commencent à empiéter sur leur territoire. Les Autochtones, beaucoup sont pas contents. On pense qu'il veut peut-être juste que Albert Johnson sacque son camp. Fait qu'il va soupçonner Albert Johnson. Ce que la police va faire, c'est que le 26 décembre 1931, joyeux Noël, l'agent King et l'agent Bernard, ils font un 97 km de trek en traîneau à chien, on est en 1931, en plein hiver au territoire du Nord-Ouest, pour parler à Albert Johnson. Albert Johnson les ignore, mais profondément, farouchement. Il y a de la fumée qui sort de la cheminée, il est là, on le sait. Les policiers cognent à la porte, il va pas ouvrir. Quand les policiers vont essayer de regarder par la vitre de la cabane, il va mettre un tissu par-dessus comme Chris et moi appelle. Fait que les policiers se disent « OK, c'est beau, on va retourner à Aklavik, qui est la grosse, encore une fois, je vais sortir mes castagnettes, la grosse ville du coin pour chercher un mandat de perquisition. » Ils vont revenir le 31 décembre.
Un autre 97 km.
Ouais, 97 in, 97 out. Ils reviennent 97 km avec un mandat de perquisition. Et là, ils sont quatre policiers, puis là, ils sont bien décidés à avoir des réponses à Albert Johnson. On veut lui parler, poser des questions. Quand il y a la porte, pas de réponse. L'agent King décide de défoncer la porte et c'est pas une bonne idée. Albert Johnson est en arrière avec un gun. Bam! Tire à travers la porte. Il blesse King, mais il va pas le tuer. Donc l'agent King est blessé, il a sa cabane sur le promontoire, donc il est comme extrêmement bien situé. Là, ils ont un agent blessé, fait que les trois autres policiers ramassent l'agent King, ils retournent à Aklavik, 97 km.
Ouais, c'est pas 19-2, lui, on appelle du renfort puis
non.
Il arrive là.
Non, entraîne-nous à chien. Ils vont revenir quelques jours plus tard, là ils sont 9 hommes. Deux équipes de traîneaux à chiens, 42 chiens et 20 livres de dynamite.
Ben voyons donc.
Juste au cas. Juste au cas que les choses aillent mal, ils reviennent. Pendant ce temps-là, Johnson, il fait pas du tourisme puis il regarde les aurores. Il va creuser une tranchée de 5 pieds à l'intérieur de sa cabane, puis dans les murs de sa cabane, il va faire des trous pour pouvoir passer son fusil. Il se prépare.
OK, attends, mais il n'y a pas tué personne encore. Là. À
il,
part
a blessé
il a blessé
quelqu'un.
Ben, il a quand même tiré sur un policier.
Il a tiré sur un policier.
Je veux dire, il est un peu...
Il est un peu farouche.
Moi, je pensais que tu allais nous parler d'un tueur en série.
C'est pas un tueur en... Non,
je
pas un
sens comme de la déception.
C'est juste quelqu'un qui a érigé une forteresse...
Ben, pour l'instant.
Ouais, OK, continue.
Pour l'instant.
Moi, je suis suspendu. Ouais, vas-y, continue.
Bon, en tout cas, moi, fille de théâtre, attends un peu, là, je développe mon intrigue.
Oh, oui, je comprends, excuse-moi.
Fait que... Il met en place les personnages.
Voilà. Il revient quelques jours plus tard avec les traîneaux à chien, machin, 20 livres de dynamite. Johnson s'est creusé un trou, machin, truc. Les policiers vont encercler la cabane, échange de coups de feu, et là, à un moment donné, les policiers vont s'approcher de la cabane, ils ont de la dynamite est gelée, ils la mettent dans leur chandail puis leur manteau pour la faire dégeler, parce que c'est gelé, il fait moins 40. Là. Finalement, tire la dynamite dans la cabane, bam, la cabane explose, le mur tombe, il y a trois murs qui décollent à terre, puis là, on se dit, il est soit amoché ou mort. Fait que là, les policiers vont se précipiter à l'intérieur, mais là, ça c'est quelque part de la légende, on sait pas si c'est vrai, mais il y a des histoires qui racontent que pareil comme dans Scarface, Johnson sort de sa tranchée avec deux guns et qu'il se met... mais pour de vrai, il a tiré sur les policiers, il était pas mort, il était caché dans sa tranchée, il a tiré sur les policiers ont été obligés de reculer pendant 15 heures de temps, il va les tenir en haleine à par moins 40 en pleine nuit, 31 décembre, il va les tenir de même, puis à un moment donné, les policiers ont plus de provisions, plus rien, qu'est-ce qu'ils font? 4 heures du matin, ils décident...
97 km,
on retourne à Aklavik.
Voyons donc.
Ils en ont plein le casque. Là, ce que Johnson va faire, évidemment, il prend ses petits puis il sauve.
Albert Johnson,
ils ont de loose.
Okay.
Pendant ce temps-là, la nouvelle va se répandre. Il y a des radios émetteurs. La nouvelle se répand à grandeur du Canada. Il y a un trappeur fou au territoire du Nord-Ouest. Okay. C'est là que la légende du Mad Trapper va commencer à prendre
Mais là, on se rend compte là, que... tout ça ne serait pas arrivé s'il avait juste ouvert la porte, puis il aurait été questionné.
Exact.
Plutôt que foutu la merde avec les...
Je vous rappelle que ça commence avec l'Autochtone qui pense que c'est peut-être lui, mais que c'est peut-être pas lui non plus. Donc,
c'est ça.
Ça commence par une banalité. Okay. Là. Ouais. Anyway.
Là, t'as toute mon attention.
Oui. Le Johnson se sauve, mais là, il y a un blizzard qui arrive. Le blizzard, c'est vraiment juste... du gros vent qui soulève la neige. Puis c'est pas de la neige qui tombe, mais c'est du vent qui soulève la neige. Il y a un blizzard pendant plusieurs jours. Donc, les policiers peuvent pas revenir avant le 14 janvier. Quand ils reviennent, évidemment, Johnson et ses poussins, puis là, on part après. Johnson, rapidement, va mêler les poursuivants. Il va marcher, mais il fait des cercles. Il revient sur ses pas en traçant des plus grands puis des plus grands, plus grands cercles.
Il sait comment attraper puis comment...
Puis là, en plus, c'est que tous les trappeurs et les chasseurs du coin sont à sa poursuite, comme tout le monde le cherche. Puis c'est pas un gros coin, là. Mais lui, il réussit à perdre tout le monde parce que il sait ce qu'il fait. Mais vraiment, là. Le 30 janvier, ça fait 16 jours. Hein. 16 jours. Le 30 janvier, on va le rattraper. On le coince dans un bosquet. Il se cache. Il tire. Il pogne un policier en plein cœur. Policier meurt sur le spot.
Pas King, là.
Non,
l'agent King.
Non, King est déjà blessé. Il est à l'hôpital.
Edgar Millen meurt. Badang. Je pense que c'est Millen. Oui, Millen. Puis Millen, c'est le premier qui lui a posé des questions quand il est arrivé à Fort McPherson.
Okay.
Alors, il va se faire tuer, une balle en plein cœur. Il va réussir à se sauver encore une fois. Et là, finalement, les policiers vont engager des Autochtones locaux parce qu'ils connaissent extrêmement bien le terrain, plus que les policiers. Puis de toute évidence, Albert Johnson est vraiment une coche en haut d'eux autres. Il disparaît dans le bois, puis on le voit plus. À partir de ce moment-là, on commence à se rendre compte qu'il se rapproche de l'ouest, donc il veut s'en aller vers le Yukon. Mais là, le problème, c'est que pour passer au Yukon, tu dois monter les montagnes Richardson qui sont là, qui font partie un peu du système
les
des rocheuses.
Les dites montagnes que tu nous as parlé au début.
Voilà.
Et qu'on a dit qu'on se rappellerait.
Exactement.
Que... Oui.
Voilà. Elle s'en rappelle. Puis, il veut s'en aller vers l'Alaska, fort probablement. Ils déduisent que c'est ça qu'ils veulent faire. Donc, les policiers vont bloquer les deux passes pour monter par-dessus les Richardson. Ils bloquent les deux passes, puis ils se disent il peut pas passer. On va le laisser s'essouffler là, puis on va le laisser aller. Plusieurs jours passent. À un moment donné, il y a un trappeur du Yukon de l'autre côté des montagnes, qui va voir les policiers puis lui dit « Les boys, j'ai trouvé des drôles de traces vraiment en amont de la rivière Peel, je pense que ça s'appelle cette rivière-là. Puis c'est des traces vraiment bizarres. Les policiers vont voir. Et qu'est-ce que c'est? Les traces d'Albert Johnson. Il a escaladé un col de 2000 mètres en plein hiver, sans équipement. Il a passé par-dessus, puis il est rendu au Yukon. Donc, là, il est rendu au Yukon, il faut recommencer à le chercher. Les policiers sont vraiment... écœurés, ils ne savent plus quoi faire. Ils vont demander à un héros de la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelle Wap May.
Oh,
c'est un pilote d'avion.
Captain America.
Non, ça c'est Captain Canadiana.
D'accord.
C'est un héros de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un pilote d'avion.
En 1933? 31.
Ouais.
De la Deuxième Guerre mondiale?
Première, excuse-moi.
OK, merci.
Voilà.
Elle est à avoir la grippe, là?
Ça a peine.
Ça a pine.
Sur la, pas sur les.
Moi,
sur
c'est parce qu'il fait quand même chaud en studio.
Oui, effectivement.
Ça serait bizarre qu'elle soit sur les pines. Et ça coche.
Et sur la coche,
ici,
voilà.
Ici, oui,
première guerre mondiale. Et c'est la première fois qu'un avion va être utilisé au Canada pour une chasse à l'homme. C'est dans cette époque-là. Wapmé va commencer le 5 février. On l'a toujours pas retrouvé. Là. Ça fait un mois que le gars est parti. On sait pas il est où. Là. Puis il est pas genre. Il est comme dans un petit coin de pays. Anyway, 5 février, Wapmé commence à faire ses recherches. Qu'est-ce qui arrive? Un blizzard! On le perd encore une fois. Finalement, le 14 février, Wapmé va découvrir la tactique de Johnson. C'est que quand il a traversé au Yukon, on s'attendait qu'il marche dans la forêt, dans le bois, mais c'est pas ça qu'il fait. Il se tient dans le plein milieu de la rivière, puis il suit les pistes de caribou. Fait que la piste est très, très tapée. Il a pas besoin de ses raquettes et il avance bien vite. Donc, il est rendu bien en avant d'eux autres. Semble-t-il même...
Je commence à me douter que c'est peut-être le Yeti. Là. Il est trop hot, ce gars-là.
Il est très hot.
Survivre dans deux blizzards en moins 40 000.
Ce que j'allais dire, c'est que il couvre le double de la distance des policiers avec leur traîneau à chien. Tellement qu'il avance vite.
Ouais. C'est un extraterrestre.
Absolument. Donc, il reste au plein milieu. Il va sur la rive pour camper le soir. Il revient le matin, puis il continue. Le 17 février... Albert Johnson est rattrapé à la rivière, mais là, il n'a pas le temps de se cacher sur la rive. Il ne peut pas mettre ses raquettes. Il est coincé, fait qu'il se planque dans le plein milieu de la rivière. Échange de coups de feu. Il va encore réussir à blesser sérieusement un policier.
Il y avait beaucoup de balles.
Oui, il visait très bien.
Ouais.
Finalement, Albert Johnson reçoit une balle dans le pelvis. Ça va lui perforer une artère. Il va mourir d'une hémorragie au bout de son sang. On va faire... Oui?
Ben, on saura pas c'était quoi ses motivations, puis...
Absolument pas.
OK.
On va examiner le cadavre. Merde. Qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est un homme de 35-40 ans. Sur lui, il y a un petit peu d'or, il y a une boussole, il y a un rasoir, un couteau, un petit couteau de poche, un hameçon, un oiseau mort, un écureuil mort. C'est tout. C'est la seule chose qu'il a. Il a réussi à survivre 6 semaines avec ça. Il pouvait pas faire de feu. Aussitôt que tu fais un feu, boucan, tout le monde sait t'es où. Uh-huh. Il pouvait pas utiliser un fusil. Si tu tires un coup de feu, tu donnes ta position. Donc, il mangeait ce qu'il pouvait.
Il était vraiment fou.
2000 piastres cash en devises américaines et canadiennes à cette époque-là. C'est beaucoup d'argent, 1931.
Okay.
On va regarder son itinéraire. On se rend compte qu'en 6 semaines, il a fait 260 km à pied en plein hiver au territoire du Nord-Ouest, dont un stretch de 135 km en 3 jours. On estime qu'il aurait brûlé 10 000 calories par jour en faisant ça, tout en se nourrissant de choses qu'il pouvait trouver à gauche et à droite. Johnson n'a jamais dit un mot. Les policiers n'ont jamais entendu Albert Johnson dire un seul mot. Quand la chasse à l'homme a commencé, la seule chose qu'il a entendue, quand il a tiré le policier, ils l'ont entendu rire. C'est tout.
OK, fait que
ça, c'est un peu freak.
Ah, ça me fait peur. Ouais. Fait qu'on sait pas quelle langue il parlait, là.
Absolument pas. Là, la grande question qu'on se demande, c'est qui est-il? C'est
oui,
qui ce gars-là?
Ben oui.
La GRC, quand il est mort, on a envoyé sa photo partout au Canada et aux États-Unis. Il y a plusieurs théories qui existent. Premièrement, Albert Johnson. Il a dit qu'il s'appelait Albert Johnson. Ça n'a rien donné.
Ah, mais là, mais il a parlé de bord à un moment donné?
Ben, au début, quand il est arrivé à Fort McPherson avec ses réponses. Mais un coup que la chasse à l'homme a été commencée, plus un mot. Autre théorie, ce serait un gars qui s'appelle Albert Nelson. Albert Nelson est allé au Yukon de 1927 à 1931. Il avait les mêmes armes que Albert Johnson. Autre théorie, un gars qui s'appelle John Johnson. Lui, il est bien connu. On sait c'est qui parce qu'il a fait de la prison aux États-Unis dans 2 prisons différentes. Autre théorie, un auteur qui s'appelle Dick North avance l'hypothèse que ces 3 personnes-là, Albert Johnson, Albert Nelson et John Johnson, sont la même personne. Il y a une autre théorie qui dit la famille Johnston de Pictou en Nouvelle-Écosse. Eux autres, ils disent qu'ils ont un membre de la famille qui s'appelle Owen Albert Johnston. Il a quitté Pictou au début de la Grande Dépression pour travailler aux États-Unis. Dernière nouvelle que la famille a reçue de lui, il était à Revelstoke en Colombie-Britannique. Il a envoyé une lettre. Après ça, on l'a perdu dans la brume. On ne l'a plus jamais retrouvé. Autre théorie. Un auteur qui s'appelle Mark Flemmerlids a écrit un livre qui s'appelle « What Happened to Sigvald Anyway ». Là-dedans, il dit qu'il y a un Norvégien qui s'appelle Sigvald Pedersen Askjold qui était hautement autosuffisant dans la nature, qui avait 32 ans en 1927, donc les âges concordent, et c'était lui aussi un fucké. Il se serait construit une cabane fortifiée sur une île un moment donné dans sa vie. Et ce bonhomme-là croyait que le gouvernement de son pays le pourchassait parce qu'il avait skippé la conscription à l'époque. Toutes ces théories-là ont été démenties. Parce qu'en 2007, on a exhumé le cadavre.
Yes! Non! C'est ça que je voulais.
2007, on a exhumé le cadavre d'Albert Johnson parce qu'on voulait savoir c'était qui. Oui. On a fait des tests ADN. Toutes ces hypothèses-là sont tombées à l'eau. Les tests ADN l'ont prouvé.
C'était un Yeti.
On ne sait pas si... Ben écoute, l'exhumation a été diffusée en 2009 sur Discovery Channel. On a analysé l'isotope dans ses dents. Tout ce qu'on sait, c'est un homme. Il vient du Midwest américain ou c'est un Scandinave. On ne sait pas. Il avait un pied plus long que l'autre, ce qui faisait que quand il marchait, sa colonne tournait, donc il y avait une démarche un peu spéciale.
Ah, OK, c'est ça que tu disais tantôt.
Ouais, c'est tout ce qu'on sait de lui. La tombe du Mad Trapper peut être visitée à Aklavik, au territoire du Nord-Ouest.
Wow! Ah non, mais
on va voir
un film. Hey, c'est ce qui termine. C'était intense. Je pense que je vais en faire des cauchemars.
Hey, puis j'ai une photo, je ne sais pas.
Ah, on va la mettre sur la page Facebook.
Une photo de Albert Johnson... Mort.
Oh my god, tu me niaises. Je l'ai vu 2 secondes. Ok, on va vraiment la mettre sur Facebook, ça fout la chienne. Et on se laisse là-dessus. Bonne nuit. Bonne nuit tout le monde et la semaine prochaine. On se quitte sur Be Horror Movie Soundtrack de Fireworks.
Arrête d'essayer de me faire peur avec ta maudite photo. We'll be right back.
Annoncez votre entreprise à la radio. Faites-vous connaître davantage. Sur Radio Centre-Ville, vous pouvez vous le permettre. C'est plus qu'abordable. Trouvez de nouveaux clients parmi diverses communautés du Grand Montréal et annoncez dans des émissions qui seront pertinentes par rapport à vos produits et services. Développons ensemble la stratégie à adopter. Informez-vous en rejoignant notre département de publicité au 514-495-8836 ou à publicité@radiocentreville.com.
Si vous avez collé l'étiquette de don d'organes sur votre carte d'assurance maladie, merci. Mais savez-vous que votre décès, c'est votre famille qui décide? C'est pour ça qu'il faut en discuter avec vos proches. Donc, si vous nous écoutez en ce moment en compagnie d'un membre de votre famille, dites-lui, je veux donner mes organes. On va attendre un instant pendant que vous le faites. Bon, c'est fait. La Fondation canadienne du Rhin vous en remercie.
Art's Notebook avec Stan Asher. Votre départ vous attend chaque samedi matin à destination de la scène locale de théâtre anglais avec escale au film, au festival culturel, le calendrier des activités culturelles et également les critiques de ce qui se joue sur les scènes locales. Tout le monde à bord les samedis de 11h30 à 12h30 avec Art's Notebook.
Salsa, reggae, compa, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip-hop, ragamuffin, mala, tango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, secousse, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. Toute la musique du monde sur le 102,3 FM.
En matière de musique du monde, Radio Centre-Ville vous fait voyager aux quatre coins du monde. Radio Centre-Ville.